Polyplaisir des Utopies, l'émission radio de la plateforme polyamour.be, réalisée et présentée par Polyphile. C'est ici que l'idée polyamoureuse nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la recherche des polyglottes de l'amour. Aujourd'hui, 6 intervenants, 6 points de vue différents. Honneur aux femmes, c'est Françoise Saint-Père, journaliste et écrivain, qui me reçoit à Paris à l'occasion de la sortie de son nouveau livre « Guide des amours pluriels ». Livre plein d'intelligence et d'humanité, elle nous explique ici ce qui l'a conduit à publier cet ouvrage.
Le titre complet, c'est « Guide des amours pluriels pour une écologie amoureuse » parce que je voulais faire un parallèle entre un type de société et un autre, donc un peu entre notre société actuelle, capitaliste, libérale, financière, et puis une société écologique qui serait davantage une société de partage, de respect du vivant, de respect des cycles de la vie. Et je trouvais que ces valeurs-là se retrouvaient dans les valeurs des amours pluriels. Alors moi, j'aime pas beaucoup le mot polyamour, parce que je trouve qu'il est pas très joli, hein, c'est pas du tout une question du sens qu'il a, mais simplement prononcé. Donc j'ai inventé un nouveau mot, le lutinage. Parce que le verbe lutiner en vieux français, ça veut dire faire la cour, faire du charme. Donc c'est quelque chose qui est plus du domaine de la séduction, pas forcément sexuelle. Mmh. Et puis, du coup, ça m'a donné naturellement l'idée que nous pourrions être des lutins et des lutines. Parce qu'il y avait un petit côté farfadet, elfe de la forêt. Donc voilà, je me suis dit, ça va poétiser un peu plus ce qu'on vit. Puisque quand même l'idée, c'est d'avoir des vies qui soient relativement poétiques. Mmh. Voilà, donc pour écrire ce livre, je voulais surtout pas faire un guide pratique, ce qui aurait beaucoup plu à l'éditeur certainement, du genre « faites ceci, ne faites pas cela, faut-il faire ceci ?» parce que je crois que c'est quand même un choix extrêmement individuel. C'est même pas un choix de couple à mon avis, c'est plus un choix individuel, puisque au sein d'un même couple, il arrive qu'il y en ait un qui soit un lutin et l'autre qui soit très monogame, ou il arrive que deux lutins n'aient pas du tout la même façon de vivre leurs amours, l'un préférant avoir des doubles vies, des liaisons continues, l'autre préférant picorer, etc. Donc c'est un choix individuel et je me suis dit, je voudrais juste donner des pistes en commençant par la réflexion que j'ai eue sur ce que ça sous-tend, mais vraiment théoriquement, de sortir d'un système de monogamie exclusive pour aller vers des amours pluriels. Et puis ensuite, il y a quand même un petit parti pratique, parce que je recevais des lettres très drôles du style « Mais qu'est-ce que je fais si, par exemple, un jour, il y a une amante qui téléphone à la maison alors que ma compagne est là Est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas ?» Enfin bon, des petits trucs tout bêtes, mais qui, dans une société monogame, peuvent poser problème. Ou bien, j'ai rencontré mon patron dans la rue alors que j'étais avec une amante. Du coup, il croit que c'est ma femme. Je suis très embêtée parce que ma femme n'est pas contente. Enfin bon, il y avait beaucoup de choses, au fond, qui ont l'air de rien, mais qui, au jour le jour, peuvent gâcher la vie. Donc je me suis dit, il y a quand même des manières simples de gérer cela, et j'ai essayé de chercher, au fond, ce que j'avais fait dans ma vie, y compris les bêtises, puisque à l'époque, quand j'ai commencé, il y a 30 ans, il n'y avait pas du tout de guide, et c'était même plutôt pas répandu, ce mode de vie. Donc j'ai dû, au fur et à mesure, tâtonner, inventer, au départ mettre des règles, après m'apercevoir que celle-ci n'allait pas, en discuter beaucoup avec Bernard, mon compagnon. Bon, donc tout ça était empirique, et je me suis dit, bon, mais après plus de 30 ans d'empirisme, je commence à avoir une idée un peu précise, et autant faire profiter les autres, en sachant que chacun doit l'adapter à son mode de vie, ça c'est sûr.
Au-delà du livre, je pense qu'il y a aussi tout ton parcours de vie, justement, et que pour moi c'est important de donner le micro à une femme, et je pense que c'est le combat du polyamour, des amours pluriels, ça, c'est aussi, je pense, une voix, une parole de femme, pour moi. Tu confirmes ?
Je crois que oui, parce que quand j'ai sorti le premier livre, donc en 2002, qui s'appelait « Aimer plusieurs hommes », j'ai reçu beaucoup de courriers. Alors j'ai reçu du courrier de femmes et j'ai reçu du courrier d'hommes, mais beaucoup d'hommes me disaient « Oh, ben en fait, vous parlez de ce qu'on fait tous, mais en cachette, la différence c'est que vous le racontez ». Mais eux, ils pensaient plus de l'adultère autorisé. Et pour moi, les amours pluriels, le lutinage, ça va bien au-delà de l'adultère ou d'histoire sexuelle. C'est vraiment une sorte de curiosité, d'exploration du monde. Dans le monde, il y a des gens, et tous ces gens sont différents. Et lorsqu'on veut rentrer en intimité intellectuelle, affective, il arrive souvent un moment où il y a aussi de l'intimité physique, qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui est quand même une façon très, très privilégiée de connaître les gens. Voilà, donc pour moi c'était comme ça. Et les femmes étaient beaucoup plus dans cette optique-là. C'est-à-dire que beaucoup de femmes m'ont dit avec mon mec, il voudrait qu'on mette un peu de piment dans notre vie de couple, ce qui est la grande mode aujourd'hui. Alors il me propose de l'échangisme, ou il me propose du libertinage. On a essayé, bien sûr, c'est sympathique, ou bien j'aime pas ça, ça dépendait. Mais elle disait, ce qui m'ennuie, c'est que ça manque de sentiments. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir d'autres relations, de pouvoir se dire, tiens, tel homme est intéressant, on a envie d'approfondir avec lui, sans que ça démolisse tout le projet de vie qu'on a construit. Donc je crois que le lutinage, oui, c'est quelque chose qui correspond bien à l'envie des femmes de nouer de vraies relations, sans que ça fasse un drame, sans culpabiliser, et tout en ayant un œil sur leur projet de vie. Et alors, ce qui est drôle, c'est que les hommes me disaient « Oui, j'adorerais ça, mais jamais ma femme voudra, elle est trop jalouse. » Inversement, des femmes qui me disaient « Oh là là, moi j'aimerais bien, mais mon compagnon, il est jaloux comme un tigre. » Et puis que finalement, quand ils en parlent ensemble, ils s'aperçoivent qu'ils ont les mêmes envies. C'est assez drôle. Enfin, pas tous, bien sûr, mais disons quand même pas mal. J'ai reçu beaucoup de lettres, oui.
Le lutinage, le polyamour, les amours pluriels, sont-ils des modèles qui demandent la remise en question d'une certaine virilité classique ? Catherine me reçoit dans son atelier de peinture pour en parler précisément. Elle est portraitiste et depuis 3 ans, elle a commencé à écrire sa vie hors norme. Bientôt aussi une sortie livre qui en retrace son parcours. Les rencontres multiples, elle en parle librement depuis plusieurs années sur son blog « Une femme qui aime les hommes ».
Moi, je sais qu'en tout cas, un homme profondément viril est un homme qui a retrouvé sa féminité. Je n'ai jamais vu d'homme, en tout cas pour ceux que je connais, qui ont accès à cette féminité en eux, dégagent beaucoup de virilité. Et c'est vrai qu'en général, ces hommes vraiment virils sont des êtres plutôt paisibles, tendres et en un très bon contact avec la femme, en effet. Et en général, c'est des très bons amants aussi. Ça, c'est sûr. Mais je crois que oui, c'est pour l'homme, je crois que ça doit être plus difficile à vivre. Je veux dire, l'homme qui aime une femme et cette femme qui dit, écoute, moi, je suis libre, je vais aimer d'autres hommes si ça me chante, si j'ai envie, si ça se présente. Ça doit être probablement plus difficile à notre époque à accepter parce que, quelque part, la réputation générale, c'est que c'est l'homme qui trompe la femme. C'est la réputation générale. Et la femme qui accepte. Bon, d'après ce que dit François Saint-Père, qui a approfondi beaucoup la question, je me souviens qu'elle dit non, 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 vous seriez étonnés, il y a beaucoup plus de femmes qui trompent, que je vais dire tromper dans le sens politiquement correct, leur mari que le contraire. Ou en tout cas, c'est à peu près la même chose. Mais c'est vrai que cette féminité chez l'homme, ce serait pas mal, et c'est surtout ce principe que la femme ne lui appartient pas. Et je crois que toutes les bagarres et toutes les guerres et tout ça, c'est je veux prendre, ça m'appartient, c'est pas à toi. Et une femme qui dit non, je ne t'appartiens pas, et que l'homme finit par dire oui, je vais l'accepter, elle m'appartient pas, à mon avis, son besoin de possession et donc de guerroyer pour la possession, ça va être moins fort.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a comme un supplément d'âme qui pourrait apparaître à ce moment-là ?
Moi, je crois que oui. Moi, je crois que oui. Mais moi, je crois que de toute façon, nous avons, j'imagine, d'où je tiens cette certitude, j'en sais rien, mais j'avais en effet un de mes amoureux qui riait toujours et qui disait « Catherine sait ». Et souvent, ça s'est vérifié. Mes intuitions savent des choses. Et puis après, ça se découvre. Mais je crois qu'il fut une époque où nous vivions vraiment... Les êtres humains vivaient réellement cette liberté de ne pas appartenir l'un à l'autre. De là à dire que la jalousie n'était pas là, probablement que si, mais ce n'était pas dans les mêmes proportions actuelles. Et je le pense, d'ailleurs je l'écris dans le roman, je pense que ça vient de la connaissance de comment les enfants ont été faits. Ce besoin de posséder et d'être possessif vient du moment, est apparu le jour où la femme, c'est apparu en 2 étapes, je crois. Il se fait que avant l'être humain vivait toujours en communauté, et c'était l'homme qui chassait, il apportait la chasse, Et en théorie, dans presque toutes les tribus, ben, la chasse était partagée. Et puis je crois que les femmes avaient besoin d'être protégées par les hommes. Et je crois que ce sont les femmes peut-être les premières qui ont exigé la fidélité sexuelle, parce qu'elles se sont dit, dans le besoin d'être protégées, s'il aime plus une femme, elle risque d'avoir la meilleure part de la chasse que moi. Et donc mes enfants en auront moins, donc elles ont peut-être commencé comme ça. Et puis, ben ça part de mon imagination, tout ça. Et puis, j'imagine que c'est l'homme qui, quand il a compris que son sperme était responsable de la fabrication de l'enfant, du fœtus, il s'est dit, ben moi, je ne vais pas partager ma chasse pour l'enfant de l'autre. Donc, c'est au fait tout part d'un sentiment d'écocentrisme et d'égoïsme qui petit à petit a dû se développer au fur et à mesure que l'homme s'est sédentarisé aussi. Et puis là-dessus se sont greffées les théories religieuses. Mais voilà. Mais je crois qu'au départ, ce n'était pas comme ça. Il y avait un sentiment de communauté, de tribu, et on partageait les choses. Et donc, bah oui, que les femmes aiment un autre homme, ça ne devait pas être très confortable. Mais peut-être qu'ils n'étaient même pas jaloux. J'en sais rien. Il existe encore des tribus, une tribu, paraît-il, quelque part en Chine, je ne sais plus où, où c'est le matriarcat qui domine. Mais bon, le matriarcat, ça veut dire la même chose, parce que, je veux dire, le matriarcat, ça veut dire au niveau liberté, c'est les femmes qui dominent, c'est les femmes qui organisent la vie dans la communauté, c'est les hommes qui chassent, qui apportent leur chasse, mais elles ont des amants. Mais si elles ont des amants, c'est que les mêmes amants ont des maîtresses, parce qu'ils ne vont pas se limiter à une seule femme. Donc, et paraît-il, il n'y a pas de jalousie. Donc, je crois que la jalousie, c'est aussi une question d'éducation et de. On nous explique tellement qu'être jaloux, c'est aimer, alors que c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Moi, personnellement, je ne vais pas dire que je ne suis pas jalouse. Quand je vivais avec mon ex-compagnon et que je savais qu'il allait voir une femme ou deux, j'avais un peu de jalousie. Je trouvais ça même très agréable. Et de dire que je n'étais pas inquiète, c'est pas vrai, je l'étais. Mais en même temps, j'avais confiance en moi, j'avais confiance en mon compagnon de l'époque. Et quand il rentrait, je lui demandais comment ça va, comment tu as passé le temps et tout. Bon, il ne rentrait pas dans les détails parce qu'il y a des choses qui ne nous regardent pas. Mais j'aimais bien quand il m'expliquait, je trouvais qu'il y avait une tendresse qu'on partageait quand il me disait oui, je passais une bonne soirée, etc. Ça me faisait plaisir d'entendre ça. Ça me faisait plaisir de savoir heureux avec d'autres femmes. Moi, je le trouvais même plus, encore plus désirable, encore plus beau. Je me disais, je ne me trompe pas, il n'y a pas que moi qui le trouve sexy, quoi. Donc,
Il y a
ça.
une grande sérénité dans ce que tu dis là.
Oui, mais peut-être parce que je suis quelqu'un qui est terriblement bien avec elle-même, en fait. Moi, je répète une phrase que Brigitte Bardot disait souvent, a dite, et j'ai repris. Un jour, un journaliste demande à Brigitte Bardot, mais en fin de compte, c'est qui l'homme de votre vie dans tous vos amoureux? Puis elle dit, mais c'est moi-même. Et en fait, je me sens comme ça, en fait. Je ne suis pas amoureuse et je ne tombe pas amoureuse parce que j'ai besoin d'un homme ou d'un protecteur ou de me sentir aimée. Je me sens très très bien avec moi-même, avec mes enfants et mon travail et toutes mes nombreuses passions.
Thank you.
Un petit tour chez les hommes à présent. Thomas, rencontré lors de la soirée de projection à Paris du film de Martine Asselin, La Grande Amoureuse, précise sa pensée et se positionne face aux machistes et à leur vision de la femme.
Mon cercle d'amis proches, pour l'instant, m'ont vu surtout comme un libertin. Et ont aussi vu, ça fait 2 ans et demi que je suis célibataire, enfin séparé, et ont surtout perçu, en tout cas, ces 2 premières années comme étant des années où je décompensais, où j'étais vraiment dans un mode exploratoire post-relationnel. Donc je pense que... Puis moi aussi, j'étais pas encore aussi, on va dire, affirmé dans mes convictions, et j'avais pas encore compris exactement où j'en étais. Finalement, ça fait à peu près 6 mois que je commence à peu près savoir que oui, je pense que je m'inscris dans la durée, dans quelque chose qui va être ouvert, etc., etc. Donc je pense qu'il y a... La plupart de mes amis n'ont pas encore perçu, n'ont pas encore vu à quel point ça pouvait être un engagement. Je commence un peu à en parler, et les gens qui me connaissent depuis 20 ans... J'en discutais hier soir avec un de mes amis quand je disais nana, le polyamour, plusieurs relations, qui a fini par me dire mais moi c'est vrai que je conçois plus facilement le polyamour que par exemple le sexe de groupe. Bon, le parallèle n'est pas forcément. Ouais, lui en tout cas, lui aurait plus tendance, s'estime plus capable de s'investir dans des relations polyamoureuses que dans des relations polysexuelles, on va dire, enfin partenaires multiples sexuels. Et ce à quoi j'ai répondu, moi je pense qu'il est exceptionnel, parce que je pense que le progrès moral entre guillemets aujourd'hui autorise beaucoup plus facilement une ouverture de la sexualité. Il y a de plus en plus de gens dans les clubs échangistes, dans les forums, dans les ouvertures comme ça. Mais par contre, commencer à casser finalement la structure unique qui est le couple, qui est une structure sociale qui jusqu'ici était une structure majeure, pour moi c'est très transgressif, et au contraire c'est des choses qui vont avoir énormément de mal à progresser, parce que c'est on est très très ancré, et on est dans des choses qui sont extrêmement anciennes. Je termine en ce moment la lecture de La théorie du corps amoureux de Michel Onfray, qui lui fait dater cette histoire aux conceptions qui sont les conceptions socratiques du couple, l'être unique, séparé, et qui du coup rechercherait sa moitié. Donc on est dans des conceptions qui ont maintenant 2500 ans à peu près. Oui, voilà, ouais, sur le texte du Banquet. Donc on est dans des conceptions de couple qui ne sont même pas chrétiennes, en fait. L'intérêt aussi, c'est de voir que avant même l'apparition de la religion chrétienne, il y avait des conceptions d'unicité, de recherche d'unicité. Et je pense vraiment, sincèrement, que casser le tabou du couple et arriver... Enfin, tabou, non, ça c'est n'importe quoi comme phrase. casser l'idéal du couple et dire qu'on peut s'épanouir hors du couple, pour moi, c'est la vraie transgression du polyamour, et c'est la chose qui aura le plus de mal à passer.
Et en même temps, un côté excitant, puisque c'est l'aventure, et que découvrir plusieurs êtres, c'est prendre le risque d'être émerveillé, peut-être aussi.
Oui, oui. Enfin, je pense que j'aime les gens. J'aime rencontrer des gens dans leur diversité, dans leur variance de discours. Enfin, c'est voilà. Et j'aime la rencontre à la fois dans la discussion. La rencontre physique est aussi quelque chose. Voilà. Il y a des peaux, il y a des réactions, personne n'a la même manière de faire l'amour. C'est vrai que c'est peine. Enfin, la diversité, c'est aussi quelque chose qui aide à se construire, au sens où, sans parler de comparaison, se retrouver face à quelqu'un qui ne pense pas comme soi est quelque chose qui permet nécessairement de faire évoluer sa pensée. Et de la même pour les relations physiques, se retrouver face à des gens qui ont des réactions différentes permet aussi de mieux se connaître, et aussi d'être plus capable de faire plaisir et de rentrer, ouais, dans des relations où on ne surinvestit pas le sexe, on ne surinvestit pas la relation, mais à force de connaître les gens, on est capable de savoir ce qu'on cherche nous, et ce que cherchent les gens. Non, chacun cherche des choses différentes, mais au moins un panel suffisant pour avoir ses marques dans la vie, dans les rencontres des gens, et être à l'aise. Enfin, finalement, on en retombe toujours sur cette idée que on est à l'aise avec les gens à partir du moment où on est à l'aise avec soi-même.
Et donc, il y a aussi souvent un petit peu le réflexe de l'homme qui va se dire, tiens, le polyamour, oui, ce serait pas mal pour moi, pour avoir plusieurs femmes, mais dans le fond, permettre à ma compagne d'avoir plusieurs hommes, ça me stresserait de trop. Mais toi, tu as déjà dépassé cette frontière, tu es dans l'acceptation, évidemment, que tu es dans quelque chose d'équitable, alors, si tu es là-dedans.
Oui. Je pense que c'est ce que je n'avais pas compris.
Donc, si tu as un message à faire aux hommes, ce serait quoi, par exemple ?
Si j'ai un message à donner aux hommes, à ceux qui hésitent, ayez confiance en vous. C'est pas parce que votre femme va voir ailleurs ou fait des rencontres que elle va forcément partir. Je sais pas si on peut traiter la possessivité. Mais déjà, je pense qu'effectivement, quelqu'un qui est possessif et jaloux, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et le conseil que j'ai donné, c'est il y a un moment, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise et il faut accepter le fait que il existe des gens qui sont plus intelligents que nous, il existe des gens qui sont meilleurs ou lits que nous, il existe des gens qui sont plus beaux, plus sveltes, plus sportifs, peut-être plus intéressants, etc. Mais d'un autre côté, la personne avec qui on vit, elle a en général choisi le bon mix entre toutes ces caractéristiques qu'elle cherche et dans ce qu'elle cherche chez les hommes. Alors forcément, tout comme nous, on fait des concessions sur certains points, elle aussi a fait des concessions pour arriver à la personne qui lui convient le mieux, quoi. Et qu'il faut être conscient que cet accord-là, il ne se casse pas parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui, pendant un mois, va lui faire l'amour comme personne ne lui a jamais fait. Ou quelqu'un qui, pendant des années, va, toutes les trois semaines, lui raconter des histoires qu'on n'est pas capable de lui raconter. C'est pas grave. Parce que, de toute façon, au final, elle habite... Il y a une communauté de vie, ou pas, mais il y a une préférence, il y a quelque chose qui est marqué, et c'est pas quelque chose qui se dissout dans les autres relations. Si la relation qu'on avait se dissolvait dans les autres relations, je pense que des choses comme le travail des femmes auraient déjà détruit la moitié des couples. Il y a plein d'autres préoccupations en dehors du couple et du côté où on se regarde le nombril, on se regarde l'un l'autre, on regarde dans la même direction.
C'est parce que tu es un homme que ça m'intéresse aussi, même si j'ai interviewé plusieurs hommes aussi. Mais je trouve que y a encore des vestiges machistes qui existent et ça fait du bien aussi. De rencontrer quelqu'un comme toi qui peut-être propose autre chose, quoi.
C'est vrai que le machisme, c'est quelque chose qui n'appartient pas à mon vocabulaire. Je pense que la liberté de la personne qui est en face de nous est aussi importante que sa propre liberté. Donc c'est là que le machisme ne rentre pas du tout dans la fenêtre, parce que j'ai pas envie de posséder, j'ai envie de passer des bons moments avec quelqu'un. Et même si pour moi, le machisme, c'est l'expression du sentiment d'insécurité. Dans le machisme, il y a une reconnaissance du pouvoir de la séduction de la femme. C'est-à-dire que finalement, je trouve que le macho est quelqu'un qui a peur des femmes, ou en tout cas peur de leur pouvoir de séduction. Et qui n'arrive, parce que lui, force peut-être, n'est pas capable de maîtriser l'effet qu'il peut avoir, et donc du coup, recraint peut-être l'effet que peut avoir ce pouvoir de séduction sur d'autres hommes. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça.
À la suite de ces différents témoignages, doit-on penser que les polyamoureux sont immatures ? Car dans l'impossibilité de faire un choix. Comme le disent certains psychologues, dans ce document étonnant, ce que les professionnels en psychologie devraient savoir à propos du polyamour. Étude présentée par Jerry Weitzman à la 8e conférence annuelle pour la diversité le 12 mars 1999 à Albany, New York. Je vous lis un extrait. Les manuels parlant du fonctionnement de la famille normale n'incluent pas de référence au style de vie polyamoureux, et cela contribue encore plus à l'ignorance en la matière de polyamour, chez les thérapeutes, de la ligne du courant dominant. Himer et Rubin ont conduit une étude dans laquelle on a demandé aux thérapeutes d'imaginer le profil psychologique d'une personne polyamoureuse typique. Raymond, psychologue bruxellois et créateur de l'ASBL Mantica, ouvert à la diversité amoureuse, réagit à ce document.
Je suis psychothérapeute, je suis également formateur de psychothérapeute, ou plus précisément de life coach, donc d'accompagnateur de vie. Alors voilà, je forme des gens, j'en écoute d'autres. Mes études, j'ai étudié la psychopédagogie, j'ai une licence, j'ai étudié l'anthropologie sociale et culturelle. Et puis voilà.
Ok, alors il y a un document qui a circulé sur polyamour.info qui était intéressant. Et je pense qu'on va se baser un peu là-dessus. Donc ça a été traduit aussi par Sam et Noémie que je remercie. Et donc Jerry Weitzman a écrit à un moment donné un texte « Ce que les professionnels en psychologie devraient savoir à propos du polyamour ». Voilà, c'est une petite idée de discussion par rapport à ce texte qui a l'air d'intéresser pas mal de polyamoureux et où on peut se poser d'abord d'emblée une petite question ou deux. Moi, je l'ai parcouru encore ce matin. On parle de phénomènes stresseurs qui peuvent arriver chez les polyamoureux, des éléments qui, quelque part, ou en tout cas des petites peurs qu'ils peuvent avoir face à un thérapeute à un moment donné, et est-ce qu'il y a une compréhension, est-ce qu'il y a un dialogue, en fait, c'est ça la question, entre un professionnel et quelqu'un du polyamour. Alors si je t'ai choisi aujourd'hui Raymond, c'est parce que je pense que tu as déjà une petite ouverture là-dessus.
Oui, disons que moi je n'ai pas rencontré des gens, je n'ai pas rencontré des gens qui avaient des difficultés à s'affirmer dans différentes relations. Maintenant, avec le qualificatif polyamoureux, on est dans une autre image, mettons. C'est-à-dire que, apparemment, dès que le mot a été trouvé, il y a une série de gens qui veulent se mettre dans une catégorie, tout comme les homosexuels, tout comme je sais pas moi les sadomasochistes, tout comme tous ces gens-là. Donc, ça devient une catégorie à part. Et alors, il faut comme défendre sa catégorie, faire un coming out, se montrer polyamoureux. Et là, à la fois c'est peut-être une bonne chose, à la fois ça me fait sourire, hein, parce que je ne crois pas que c'est quelque chose de nouveau. Je crois que le phénomène est extrêmement ancien et que ce n'est que très récemment que c'est devenu une catégorie. Hein, donc je crois que les difficultés viennent de cette catégorisation.
Et au niveau donc de ce document que je t'avais aussi proposé de lire un petit peu, quelle a été ta première réaction en lisant ce texte ?
Ils disent, par exemple, je crois dans la première analyse, qu'il y a 47% des psychologues qui sont réticents. Je me dis, bon, donc il y en a 53% qui ne le sont pas. Hein, dans un deuxième calcul, je crois qu'il devait aussi y avoir quelque chose comme plus de la moitié des psychologues qui regardent ça avec un bon œil.
Oui, donc tu fais référence à Himer et Rubin ici, qui disaient que 24% des psychologues craignent l'engagement, enfin disent que c'est des gens qui craignent l'engagement. 15% disent que le mariage ne marche sans doute pas et que c'est pour ça qu'ils choisissent le polyamour. 7% disent qu'il y a des problèmes d'identité. 30% disent qu'il y a des désordres de la personnalité ou ils sont antisociales à 20%. Voilà, il y a quelques chiffres.
Oui, hein, donc, mais la plupart des psychologues, je crois, ne font pas fort attention à ça. Et ce que notent les autres psychologues, ben c'est peut-être bien vrai. C'est-à-dire qu'il y a probablement des gens qui se déclarent polyamoureux parce qu'ils ont peur de s'engager avec une seule personne. Donc, c'est difficile à dire. Hein. Je crois que la plupart des psychologues sont plutôt ouverts à cette idée-là. Pour la bonne raison, je crois que nous sommes tous polyamoureux dès le départ. À la base, tout être humain est polyamoureux. Il est amoureux de sa mère, il est amoureux un peu de son père, il est amoureux de ses frères et sœurs, il est amoureux de ce qui l'entoure, de son chien, du chat qui court par là, hein, de tout ça. Et puis, par après, on lui demande de se situer, une fois qu'il a atteint, disons, l'adolescence, etc., on lui demande de se situer sexuellement, et alors il se déclare monogame. Hein? Donc, dans notre culture, parce que c'est prévu, la monogamie est prévue dans notre culture. Mais au départ, nous sommes polyamoureux. Alors, il y a une grande confusion dans tout ce qui est polyamour entre ce que le mot dit, amoureux, et sexualité. Et alors on confond les deux, et ça c'est typique de notre culture de la consommation, hein, il faut consommer l'amour. Et la consommation de l'amour, c'est la sexualité. Bon, donc on va avoir le polyamoureux qui doit se déclarer sexuellement également polyamoureux. Pourquoi ? Ne peut-on pas être amoureux comme ça d'une série de gens et d'avoir, une, par exemple, une compagne privilégiée, ou peut-être plusieurs, hein, mais voilà, donc une compagne privilégiée, et être amoureux par ailleurs du monde et d'un tas d'autres gens. À ce moment-là, ben, on est normalement polyamoureux et sexuellement plus ou moins donc casé chez l'une ou l'autre personne, voire plusieurs personnes. Donc c'est toute autre façon de présenter le polyamour, hein, le présenter comme naturel. Et je dirais que le couple qui n'est pas polyamoureux, je ne vois pas comment ils font. Hein, voilà, ils sont polyamoureux exclusifs. On pourrait dire ça comme ça. Alors il y a des polyamoureux exclusifs et des qui ne le sont pas.
Et le débat est aujourd'hui, on dirait, un petit peu plus présent sur Internet, en tout cas dans les médias aussi. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui, par l'écriture aussi, peuvent à un moment donné affirmer des choses, se sentir reliées à d'autres, poser des questions. Est-ce que tu as l'impression aussi que la nécessité de l'écriture peut amener, on va dire, des monogames réticents? Bon, peut-être que le combat se situe parfois là, puisque c'est difficile de, parfois dans sa propre famille. On en parle aussi dans le document dont on a parlé. On vit à plusieurs, on vit des relations. Il y a le monde du travail, il y a le monde de la famille, où on peut parfois se sentir incompris, quoi.
Oui. C'est-à-dire toute la problématique du polyamour, je crois, est venue de la sexualité, de la part de la sexualité, où on a détaché il y a quelques années le sexe et le genre de la personne. Alors on peut être de sexe masculin, mais d'un genre plus féminin. On peut être d'un sexe féminin, mais d'un genre plus masculin. Donc le sexe et le genre ont été séparés. À partir de ce moment-là, on a découvert un tas de sexualités alternatives et la personne a dû se situer dans une forme de sexualité. Bon, maintenant, notre culture n'est pas encore du tout prête à jouer ce jeu-là. Hein, parce que la société est structurée d'une certaine manière, l'entreprise, etc. Enfin, tout est structuré d'une certaine manière. Les rôles des femmes et des hommes sont encore fort affirmés. Hein, encore que c'est en train de diminuer, mais les rôles, pour l'instant, en tout cas, sont encore fort affirmés. Et c'est de ce coin-là, de cet angle-là, qu'est venue toute la problématique du polyamour. Hein, donc, une femme, qu'est-ce qu'elle est supposée faire? Un homme, qu'est-ce qu'il est supposé faire? Et on prend la femme comme un bloc et l'homme comme un bloc avec une série de comportements prévus, précadrés. Or maintenant, tout ça est en train d'éclater. Et alors, bon, donc, se développe une série de sexualités tout à fait originales. Hein, on peut être à la fois de sexe masculin, mais avoir une tendance vers les hommes, on appellera ça, donc, par exemple, de l'homosexualité. Hein, voilà, mais c'est... Si on sépare sexe du genre, on a un florilège de sexualité qui s'ouvre. Et ça, ça pose problème, parce que la société tient les gens par leur sexualité. C'est-à-dire Foucault a défendu l'idée assez longtemps, hein, dans ses traités sur la sexualité. Donc on est tenu, sans le savoir, par notre sexualité. Tu es un homme, voilà ce qu'il faudra que tu fasses, voilà comment il faut que tu te comportes. Et maintenant, ben voilà, ça a éclaté. Et ça, c'est une grosse, grosse, grosse transformation. Depuis Freud qui a libéré l'inconscient, la prochaine grande transformation, il a ouvert, disons, le monde à la sexualité. La prochaine grande transformation est celle qu'on commence maintenant, en détachant le genre du sexe et en s'affirmant chacun dans sa sexualité originale. Ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est un peu comme dire « j'ai une personnalité originale qui n'est pas la tienne, qui n'est pas la tienne. Hein, » bon. Donc, on s'affirme comme être humain, comme individu. Et bien maintenant, dans l'individu vient s'ajouter, on s'affirme dans sa sexualité qui est très particulière et qui ne ressemble à aucune autre. Donc, et alors, de nouveau, la société a tendance à créer des catégories. Et parmi ces catégories, il y a le polyamour qui figure une catégorie assez libre, je dirais, assez ouverte. Thank you.
événement cinématographique. Un sujet qu'on n'a encore jamais osé traiter à l'écran. Une femme peut-elle aimer également deux hommes? C'est le thème du chef-d'œuvre de Henri-Pierre Rocher, le sujet du nouveau film de François Truffaut, le réalisateur des 400 coups.
Qui c'est, Jules?
C'est moi.
Et vous?
Jim.
Jim et Jules, alors?
Non, Jules et Jim.
Jules et Jim, deux hommes, deux amis, bouleversés par la même femme.
Vous êtes deux idiots.
Un, deux, oh.
Une femme généreuse et sincère, à la recherche d'un bonheur sans jalousie, sans mensonge, sans hypocrisie.
Catherine n'est pas spécialement belle, ni intelligente, ni sincère, mais c'est une vraie femme. Et c'est cette femme que nous aimons.
Cette femme, c'est Jeanne Moreau, la plus grande actrice française, qui vous fera rire et vous fera pleurer.
On a été vraiment heureux, tous les deux.
Mais nous sommes heureux. Enfin, moi, je le suis.
C'est vrai. Oui, on restera toujours ensemble, tous les deux. Comme des petits vieux, avec Sabine et les petits-enfants de Sabine. Garde-moi près de toi.
Jeanne Moreau. Oscar Werner, Henri Serre, Marie Dubois, Vanna Urbino, Bassiac, la petite Sabine. Un film tendre et cruel, inattendu comme la vie.
Tu crois que Jim m'aime? Oh, Julie. Moi aussi, je t'aime.
Jim, aimez-la, épousez-la et laissez-moi la voir.
On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail.
Tous ceux qui ont vu Jules et Jim ont été bouleversés par la sincérité, l'originalité et la beauté du nouveau film de François Truffaut.
Voilà, petite séquence nostalgie. Et en 1962, ce film obtient plusieurs récompenses et ouvrait le débat sur la vie amoureuse hors sentier battu. Tendre et cruel, comme le dit ici la bande-annonce à l'époque. Et dans un couple polyamoureux, comment se passent les départs et les retrouvailles? Je vous propose de rencontrer Clémentine et Alexandre, qui vivent dans des relations multiples et qui abordent quelques questions importantes. Comment se dit-on au revoir? Comment gérer les rivalités possibles? Ou comment imaginer la venue éventuelle d'un enfant?
En arrivant sur le site Polyamour, j'ai cherché où étaient les autres femmes et quelles femmes elles étaient, parce que je ne veux pas rentrer dans ces rapports de rivalité entre femmes autour d'un homme, de « moi je te fais mieux l'amour, moi je te fais mieux les petits plats ». Et puis le mec est là en train d'hésiter entre deux et de se demander « non, je suis pas dans la rivalité avec mes sœurs ». C'est vraiment... Et c'est aussi par rapport à d'autres jeunes femmes. Je supporte assez mal qu'on me compare à elles parce que j'ai une expérience. Et puis on ne peut pas leur demander à elles d'être à ma hauteur puisqu'elles n'ont pas cette expérience. Enfin, c'est... quelque chose pour moi aussi, je veux pas rentrer dans cette compétition-là non plus, de l'expérience ou la jeunesse. Du coup, le polyamorie permet d'avoir les deux, finalement. Et mon grand désespoir pour l'instant, c'est que les éventuels partenaires de mes amoureux ne souhaitent pas me rencontrer. Et quelque part, moi, j'aimerais justement pouvoir les rencontrer, non que je nourrisse pas des sentiments de jalousie assez féroces, mais voilà, je veux pas que cet homme nous sépare. Je veux avoir un accès direct à elle et pas que ça passe. Parce que, par contre, mes amoureux en général sont assez friands de petites informations sur les uns les autres. ce que l'un fait, ce que l'autre a proposé, où il en est. Donc je fais un peu radio, bulletin d'information. Par contre, bon, certains se connaissent, seraient capables peut-être de cohabiter dans la même pièce le temps d'une soirée, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas d'accès à moi, parce que bon, je peux comprendre que ce soit difficile de me voir dans les bras de quelqu'un d'autre. Mais bon, le contact n'est pas du tout souhaité. Alors que moi, j'aimerais vraiment pouvoir les rencontrer. Et, on a quand même quelque chose en commun qui est vraiment important.
Oui, c'est bizarre, parce que moi, je serais vraiment, justement, comme tu dis, dans l'effet inverse, de pas vouloir rencontrer les partenaires, de pas vouloir te voir avec eux, parce que c'est pas quelque chose que... Enfin, c'est pas quelque chose que je souhaite, qui peut-être quelque chose qui fait un peu plus de mal, et donc, tant que ça reste une relation qui est sur le côté, dont je suis au courant, il n'y a pas de problème, mais la voir et se la faire mettre face à soi, c'est quelque chose de totalement différent dans la perception. Et donc,
Il y a plusieurs partenaires, donc il y a une répartition du temps qui est entre tout le monde. Il peut y avoir des périodes où on ne se voit pas, qui peuvent durer parfois 3, 4, 5 jours, une semaine. Donc peut-être qu'au moment de le revoir, il y a toujours un moment, quand est-ce qu'on se revoit, qui est peut-être moins présent dans une relation
qui amènerait une certaine tension classique. Ou quelque chose comme ça, on peut parler comme
non, non, qui amène peut-être une envie de revoir la personne, une envie de savoir quand ça va revenir. Et simplement, on est aussi peut-être dans la séduction, essayer de récupérer un petit peu de temps, de toujours... vouloir revoir la personne.
Comme s'il y avait un surplus de vivacité, un peu comme ça.
Oui, ben on reste peut-être plus dans la séduction pour toujours garder la flamme au fur et à mesure de la relation et pas finalement à un moment s'endormir sur ses lauriers. Ben voilà, on a une relation qui dure depuis 2 ans avec la même personne et on tombe dans l'habitude. Ça recoupe ce que tu disais il y a 5 minutes. On est avec la personne parce qu'il y a une qualité de relation et pas simplement pour rester avec la personne par habitude.
C'est aussi quelque chose qui s'inscrit complètement en faux avec, par exemple, la vision catholique du mariage, où là, on fait vivre le sacrement parce que sacrement, il y a eu. Et justement, quelque part, même si le couple traverse les pires difficultés, c'est quasiment un cadeau de Dieu pour éprouver sa foi et gna gna gna. Là, on n'est pas du tout là-dedans, au contraire.
Oui, donc c'est ça, c'est l'idée de la souffrance qui est comme un chemin à suivre absolu. Mais moi, je voudrais revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure dans l'idée donc, du patriarcat, du modèle classique où l'homme a sa femme pour lui. Le polyamour a quand même cette envie de dépasser ça. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi ancré dans le patriarcat qui s'achète un ventre pour une descendance ?
Non, absolument.
Hein, on peut confirmer ça. Et que l'idée de l'héritage va passer du fils en fils.
Ça s'est confirmé même, c'est Christine Delphi qui a fait sa thèse là-dessus dans les milieux ruraux, et ça a été également le cas pour ma grand-mère. En fait, les filles qui pourtant sont héritières égales de leur frère sont poussées à renoncer à leur héritage pour pas morceler les terres et pour que leur frère ait une part plus grosse. Donc il y a quand même aussi une dépossession volontaire sur la question, effectivement, la transmission du nom, des gènes, des terres. C'est assez net. Pour moi, la question de la grossesse en milieu polyamorie est aussi une question que je me pose, c'est-à-dire que si aujourd'hui je souhaite être enceinte, avec qui je vais faire cet enfant ? Est-ce qu'à un moment donné, je prends un risque prophylactique majeur et j'arrête d'utiliser un préservatif avec tout le monde et le sperme le plus conquérant aura mon ventre le premier, avec le suspense que ça peut créer sur la tête de l'enfant à naître et les angoisses de 4 familles sur est-ce qu'on va avoir un petit-fils dans la famille ou pas ? Sachant que pour un certain nombre de familles, c'est pas vécu, enfin les gens savent pas exactement dans quel type de, enfin mes parents sont au courant mais d'autres parents ne le sont pas. Et puis déjà c'est souvent assez difficile pour un homme de suivre la grossesse de la femme qu'il a mise enceinte. Alors j'imagine pour quelqu'un dont c'est pas l'enfant à l'intérieur, l'espèce de nœud que ça peut faire, y compris dans la sensualité, dans la sexualité. Et puis, le petit d'homme étant un petit parfaitement immature et qui peut très difficilement se passer de sa mère au début, comment est-ce qu'on peut continuer à être polyamorie dans les premières années, en tout cas les premiers mois ? À un moment donné, j'avais une idée de familistère personnel. Et donc je me disais, je vais avec mes amoureux louer une maison où chaque homme aura un étage, où il habitera avec ses enfants. Et je passerai d'un étage à l'autre. en me disant qu'il y avait moyen justement que les enfants aient quand même accès à leur, demi-frère ou sœur, hein, qu'on puisse s'arranger pour une forme de garde aussi.
Ouais.
Enfin, bon, voilà. L'idée m'est passée depuis, et pour rire comme ça, souvent j'en parle juste pour voir la tête déconfite de l'homme en face de moi. Mais bon, ça reste une question. Est-ce qu'on...
de ne jamais s'oublier avec ses envies et de les affirmer. Parce que moi, j'ai vécu ça un peu, malgré tout, que je pensais que j'étais, tu vois, ouverte d'esprit et tout. Mais apporter tout ce poids du couple et à pas s'autoriser plein de choses, mais aussi ses désirs. Voilà. Ne pas s'oublier et ne pas avoir honte de ce qu'on est, de ce qu'on ressent.
Voilà, c'est quelques derniers mots pleins de tendresse envers soi. C'est Angélique qui nous les dit avec cette intelligence relationnelle qui se dégage dans sa voix. Merci de nous avoir suivis. C'est donc ici que se termine cette émission. Les deux musiques, les multiples musiques qui illustrent cette entrevue sont Pantin des cendres de Tom Lamèche pour le générique début et fin, Kietman de Sol Carlus, X Blues de No Times, Chanson pour dépressif de Sol Carlus. Toutes ces musiques ainsi que cette émission autoproduite sont sous licence Creative Commons, disponibles sur docmazic.net. Merci à Radio Campus à Bruxelles pour l'enregistrement de cette émission dans ses studios. Vos réactions, commentaires et propositions sur le forum de polyamour.be ou en commentaire sur la page de l'émission. Je vous rappelle également nos rendez-vous Café Poly tous les premiers vendredis du mois au café Le Greenwich à Bruxelles, près de la Bourse, et à Namur 15 jours plus tard à la taverne Le Copenhague, près de la gare. Vous êtes toujours plus nombreux à ces rendez-vous. Je vous retrouve donc le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des polyplaisirs, des utopies. Bien à vous et à bientôt. Thank you.